Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Dextera Domini fecit virtutem. La droite du Seigneur a fait éclater sa puissance, la droite du Seigneur m'a exalté, je ne mourrai point, au contraire je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Mes très chers frères, le temps après l'épiphanie est celui de, symboliquement, que représente symboliquement celui de la croissance spirituelle. C'est pour ça que c'est un temps en vert, comme le temps après la Pentecôte. C'est celui, le temps de la croissance spirituelle, du développement des effets de la grâce dans l'âme. Et l'Église nous y délivre un enseignement propre à affermir, à nous affermir dans la foi et la pratique de la religion. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche après l'Épiphanie. Il s'agit d'apprendre le fondement véritable, de la véritable sagesse dont parle saint Paul dans l'Épître, sagesse qui consiste à se connaître soi-même et à connaître Dieu. C'est pour cela que saint Paul dit « Mes frères, ne soyez point sages à vos propres yeux ». Nous avons plusieurs choses à examiner avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, nous pencherons spécialement tout au long de ce sermon sur la première partie de l'Évangile qui raconte, qui fait le récit de la guérison de ce lépreux. Récit très bref, mais extrêmement important. Nous verrons donc, avec l'aide du Saint-Esprit, le récit de la guérison du lépreux, et nous verrons comment chaque mot contient un enseignement fondamental. Cela nous mènera à notre deuxième point, où nous examinerons l'oraison collecte, qui nous donnera la clé de cet évangile, et qui nous enseignera que la puissance de Dieu, c'est sa volonté. Et enfin, nous terminerons, d'une façon pratique en quelque sorte, par un troisième point, en voyant comment se vérifie la guérison. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Voici l'évangile la partie de l'évangile qui nous intéresse aujourd'hui. En ce temps-là, lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint à lui, et l'adorant lui dit « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier. » Jésus, étendant la main, le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, sa lèpre fut guérie. Et Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va, montre-toi au prêtre et offre le don que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mes très chers frères, ce court récit, qui pourrait sembler être quelque peu occulté par le beau récit qui suit et qui est très long, le récit de la foi du centurion de Capharnaüm, ce beau récit ne nous est pas donné pour rien par l'Église. Il nous faut l'examiner et nous n'examinerons que ceci ce dimanche, parce que nous ne pouvons pas parler de tout et je crois que nous avons parlé de la foi du centurion l'année dernière, si vous vous souvenez peut-être. Donc aujourd'hui, concentrons-nous sur la première partie de cet évangile qui rapporte, je le répète, la guérison de ce lépreux. Un récit tout simple, guérison toute simple, mais extrêmement importante. Ce court récit de guérison est fondamental si nous voulons acquérir, comme je le disais, la connaissance de soi-même et de Dieu, qui constitue la véritable sagesse. Un lépreux, nous est-il dit, et voici qu'un lépreux vint à lui. Un lépreux, tout d'abord. Rappelons brièvement ce que, dans l'Écriture sainte, représente et symbolise la lèpre. La lèpre, c'est à la fois le péché originel et donc le péché actuel. Tout homme naît lépreux, tout homme naît infecté par la lèpre, qui est comme une seconde nature depuis la chute de nos premiers parents. Et non content d'avoir cette maladie dans tout son corps, dans toute son âme, le corps représentant l'âme ici bien entendu, il se trouve que l'homme produit lui-même de nouvelles manifestations de la lèpre par les péchés actuels. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas baptisés sont non seulement infectés du péché originel, mais aussi sont coupables de péchés actuels, ce qui fait que leur situation est catastrophique. Et ce n'est qu'à l'aune de cette situation terrifiante, qui mérite plusieurs fois la damnation infernale, que la bonté et la miséricorde du baptême, de Dieu manifesté par le baptême, se manifeste pleinement. Ce n'est qu'à cette aune que on peut juger de la grandeur des effets du baptême. Donc la lèpre de ce lépreux, c'est l'état natif de l'homme. L'état aussi, un état de retranchement du peuple de Dieu. Vous étiez autrefois étrangers aux alliances, sans Dieu et sans espoir, sans espérance dans le monde, dit saint Paul. C'est cela le lépreux. Le lépreux, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a un foie qui va mal, ce n'est pas quelqu'un qui a un bras atrophié, ce n'est pas quelqu'un qui a le cœur qui est faible, c'est quelqu'un qui est contagieux et qui, à cause de la contagion de la lèpre, est mis à l'écart du peuple. C'est encore des choses qui se faisaient en Occident jusqu'au Moyen-Âge, me semble-t-il, où les lépreux avaient des maisons à l'écart des villages, et même parfois, eh bien, comme nous le voyons plusieurs fois dans le récit évangélique, eh bien, ils allaient de village en village en mendiant, sans avoir vraiment de domicile fixe, si l'on peut dire. Donc, la lèpre est non seulement l'image de la contamination de l'homme tout entier par le péché originel et de sa, en quelque sorte, surcontamination par les péchés actuels. Mais c'est aussi l'image du retranchement de l'homme, du peuple de Dieu. On ne peut pas faire partie du peuple de Dieu, on ne peut pas vivre avec les enfants de Dieu si on est lépreux. Et en même temps, si on fait partie du peuple de Dieu, alors ça signifie que l'on n'est plus lépreux. Ce lépreux est donc un homme qui est dans un état, dans le pire état dans lequel l'homme puisse être, qui est l'état naturel, du moins depuis la chute, bien entendu. Ce lépreux est donc le symbole de l'homme, ou représente l'homme tel qu'il est par la nature depuis la chute, l'homme tel qu'il est nativement, c'est-à-dire marqué, encore une fois, je le répète, par le péché originel et maculé de péchés actuels. Écoutons ce que l'Évangile dit. « Et voici qu'un lépreux vint à lui. » Chaque mot est important, chaque mot est extrêmement important, chaque mot est inspiré par le Saint-Esprit, et dans toute l'Écriture sainte, et spécialement dans l'Évangile, chaque mot est à sa place, exactement à sa place. Si le mot n'était pas là, eh bien, cela voudrait dire autre chose, et s'il y avait un autre mot, ça changerait le sens du texte. Il est écrit donc « Un lépreux vint à lui ». Plus précisément, « Etece leprosus veniens », c'est un participe présent, « veniens », « venant ». En français. Et voici un lépreux venant. Adorabat eum. Venant. Vous voyez, ce n'est même pas vedit veniens ad eum, venant à lui, venant. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il inspiré ce mot qui est un participe présent du verbe, le participe présent du verbe venir à saint Matthieu? Eh bien, c'est parce que, comme vous le savez, utilisant ce mot d'une façon extrêmement simple, le sens de ce mot est proche de l'absolu. C'est-à-dire que ce lépreux qui est venu, c'est l'image même de l'homme que Dieu veut sauver. Dieu ne regarde pas à sa lèpre, ou plutôt il la voit, nous en parlerons dans un instant, il la voit et il ne l'aime pas, mais il l'attire vers lui. Ce lépreux aurait pu être partout ailleurs dans la Terre Sainte et même au-delà. Il aurait pu être dans une léproserie, il aurait pu être à un autre moment, il aurait pu être plus loin. C'est un lépreux qui est dit venant. Nul ne vient à moi, dit le Christ, si mon Père ne l'attire. Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai toute chose à moi. Veniens. Vous voyez l'importance de ce petit mot. Un lépreux, c'est-à-dire l'homme qui est symboliquement le plus éloigné de Dieu, je parle de la lèpre morale, l'homme qui est le plus éloigné de Dieu possible, l'homme naturel, comme dit saint Paul, veniens. Il y a comme une sorte d'oxymore, si vous me permettez d'être un peu pédant, c'est-à-dire qu'un lépreux ne peut pas être dit venant, moralement parlant. Pourquoi ? Parce que l'homme qui est maculé par le péché actuel, qui provient du péché originel, dont toute la puissance est à l'œuvre en lui, puisqu'il n'a pas été baptisé, ou qu'il se laisse aller aux influences de la concupiscence, eh bien cet homme-là peut toutes sortes de choses, bien sûr, mais il ne peut pas venir. Il ne peut encore moins être venant, être dit venant, venant vers Dieu. Pourquoi ? Parce que sa lèpre l'écarte de Dieu, non seulement naturellement, mais volontairement. L'homme qui est marqué par le péché originel, l'homme qui est donc l'homme naturel, comme dit saint Paul, est un homme qui non seulement ne se soucie pas de Dieu, mais qui, lorsqu'il entend parler de Dieu, ressent une sorte de répulsion envers lui. Donc le lépreux qui est dit venant, était chez leprosus veniens, il y a déjà un miracle. Il y a un miracle de la grâce, il y a que ce lépreux qui est tout entier plongé dans le péché et qui, par la spontanéité de sa nature, déteste Dieu ou méprise Dieu, ce lépreux est dit veniens, venant. Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Vous voyez, mes très chers frères, comme nous le disons souvent, quelle que soit l'amorce qui provoque la conversion, selon les apparences, c'est toujours Dieu qui attire. Nous reviendrons sur cette amorce un peu plus loin. Quelle que soit l'amorce, c'est toujours Dieu qui attire. Je me suis converti en m'intéressant à ceci, cela, mais c'est très bien, c'est votre histoire personnelle. La réalité, c'est que c'est Dieu qui vous a attiré. Quelle que soit l'amorce, c'est toujours Dieu qui attire. Parfois, Dieu se manifeste clairement pour la conversion, comme notre Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, qui est apparu directement lui-même dans une vision à Saint Paul, l'a terrassé, l'a fait tomber à terre, et lui a dit, je suis, lorsqu'il lui a dit, Seigneur, qui êtes-vous? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Parce qu'il persécutait l'Église, qui est le corps mystique du Christ. L'Église, c'est le Christ, en réalité. Eh bien, des fois, alors ça, ce sont les plus belles conversions, et ce sont aussi des conversions qui annoncent un dessein extraordinaire, dans le sens où Saint Paul devait être décapité. Il devait souffrir, il devait passer de longues années dans la captivité, à cause de la prédication de l'Évangile, et il devait être décapité. Donc, attention à ceux, mes très chers frères, qui voudraient commencer, disons, d'une façon très grandiloquente, leur vie chrétienne. C'est possible, alors on ne le choisit pas, mais à ceux qui veulent les premières places, notre Seigneur dit, comme au fils du tonnerre, il dit, êtes-vous capable de boire le calice que je bois? Et attention de ne pas répondre trop vite, nous le pouvons, c'est où la droite et la gauche, où on va pouvoir s'asseoir. Attention. Attention, les grandes conversions comme à la Saint-Paul, et si j'ose dire même à la Saint-Augustin, même si Saint-Augustin n'est pas un martyr, mais il se trouve que ce sont des conversions qui annoncent, en quelque sorte, les circonstances annoncent un dessein extraordinaire, donc une souffrance extraordinaire. Saint-Paul est mort martyr, et notre père Saint-Augustin a passé sa vie à combattre les hérésies, et très probablement que ce n'est pas une partie de plaisir, parce qu'il aurait mieux aimé édifier son peuple, ce qu'il a fait bien sûr, puisque c'est un très très grand docteur, mais il aurait mieux voulu se consacrer aux petites brebis de son peuple, plutôt que de combattre Pélage et tout son orgueil et les donatistes et autres, tous ces gens qui déchiraient la tunique sans couture du Christ, si j'ose dire. Donc, vous voyez, attention, ne cherchons pas les grands commencements, parce que nous en sommes très probablement indignes, parce que si ce n'est pas le cas pour nous, et bien si nous n'avons pas commencé comme cela, c'est que Dieu a un autre destin pour nous, et c'est très bien, puisque ça nous apprend l'humilité. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la mort, c'est toujours Dieu qui attire. L'homme, bien sûr, est fait pour venir à Dieu. Dieu ne se présente pas à l'homme comme un martien qui se pose en soucoupe sur une route et puis qui force les gens à rentrer dans sa soucoupe. Ça n'a rien à voir, déjà ça n'existe pas, et ensuite c'est plutôt des démons, et ensuite Dieu n'est pas un extraterrestre dont la route croise par hasard, plus ou moins par hasard, la route de l'homme. Dieu est celui qui a créé l'homme, et quand il l'a créé, quand il l'a formé de ses propres mains de la poussière du sol, et qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden, dans le paradis terrestre, eh bien il l'a fait dans un état qui est l'état d'innocence, qui est l'état natif de l'homme, l'état naturel, si l'on peut dire, originel de l'homme, et qui est un état où l'homme, qui caractérise l'homme, qui est fait pour Dieu. Donc l'homme, même lépreux, même déchu, même vivant très longtemps après la chute, et ayant complètement perdu le sens de Dieu, reste fait pour Dieu. L'homme est fait pour venir à Dieu, parce que ce lépreux, quoique lépreux, a deux jambes, si j'ose dire, deux jambes qui le portent, qui peuvent le porter vers le Christ. L'homme est fait pour venir à Dieu, mais, voyez-vous, mes très chers frères, c'est un lépreux. Dieu seul peut l'attirer. Le lépreux, comprenez-le bien, est non seulement infecté de lèpre, mais il est aussi banni de la société des hommes. Or, Dieu attire ses lépreux, attire les lépreux, parce qu'il attire qui il veut à lui. Veniens, ici, ce n'est donc pas venant, ici, ce participe présent, le participe présent décrit, selon la grammaire, une action qui est en cours. Cet homme qui est dit ce lépreux, qui est dit venant, Nous devons comprendre que s'il se meut vers le Christ, c'est parce que Dieu le meut. Il est dit venant, mais c'est moins lui qui vient que Dieu qui le fait venir. Bien sûr que c'est lui qui marche, ce n'est pas Dieu qui marche pour lui alors que lui est ailleurs. Il marche, c'est bien lui qui marche, c'est bien lui qui vient, mais s'il vient, c'est qu'il en a reçu la force de Dieu qui seul attire à lui-même. Et c'est nous, pour prouver ce que nous disons que nous n'avons qu'à citer le prochain mot, le prochain verbe. Et ecce leprosus veniens, donc, et voici un lépreux venant, donc nous comprenons le paradoxe, il y a déjà un premier miracle, adorabat eum. Et voici qu'un lépreux venant, il l'adorait. Le Saint-Esprit se montre particulièrement, si j'ose dire, particulièrement précis ici, comme toujours, bien entendu, donc quand il dit « adorabat eum », il l'adorait, on pourrait dire, et l'adorant, il lui disait, non, c'est exactement le contraire. Vous voyez, « adorabat eum dicens », il l'adorait en disant. On dirait que le texte est mal, que le récit est en quelque sorte mal fait, puisqu'on utilise les temps un petit peu, et au contraire, il est très bien fait. Il était venant, et il était disant, et ce qu'il faisait sur la durée, parce que c'est ça le sens de l'imparfait, une durée, un verbe qui indique une durée indéfinie, adorabat eum, il l'adorait. Il est donc bien attiré par Dieu, qui seul peut attirer les hommes à son Fils. Il lui dit quelque chose, nous allons en parler dans un instant, et entre-temps, ce qui est le fond même de son action, positivement parlant, il l'adorait. Il l'adorait. Reconnaître la divinité du Christ est un don de Dieu. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur », dit le Saint-Esprit dans saint Paul, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il l'adorait. Remarquez avec quelle précision et quelle bonté aussi le Saint-Esprit décrit l'œuvre de Dieu dans ce pécheur, puisque c'est une figure du pécheur. Voici qu'un lépreux venant, il l'adorait, et lui disant, il l'adorait. Voyez-vous, mes très chers frères, ce n'est pas peu de choses que de reconnaître et de confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en réalité un don de Dieu, car la foi est un don de Dieu, et la foi que nous demandons à l'Église dans le baptême, eh bien, c'est commence par la confession de la divine humanité du Messie. Bien sûr, il y a la Trinité divine et divine humanité du Messie, c'est les deux dogmes fondamentaux sans lesquels nul ne peut être sauvé, puisque la foi par laquelle on plaît à Dieu doit inclure explicitement la croyance en la Trinité divine et en la divine humanité du Messie, c'est le symbole de saint Athanase. Il l'adorait. Vous voyez, mes très chers frères, honorer notre Seigneur Jésus-Christ en niant sa divinité, c'est faire œuvre d'Antéchrist. Et donc, paradoxalement, lorsque les Juifs détestent, haïssent, méprisent notre Seigneur, et que les musulmans lui donnent une très grande, enfin disons, l'honorent, qui est-ce qui est plus coupable? Eh bien, ce ne sont pas les Juifs. Parce que les Juifs haïssent notre Seigneur pour ce que l'Église dit qu'il est. L'Église dit « il est le Fils de Dieu », les Juifs disent « nous haïssons cet homme qui prétend être Fils de Dieu ». Ils ne disent pas « non, c'était un prophète, c'était un brave homme, il faut distinguer, l'Église se trompe ». Ils disent « la définition orthodoxe du Christ que donne l'Église catholique, nous la rejetons ». Eh bien, d'une certaine manière, ils sont moins coupables que les musulmans. Quand les musulmans disent « l'Église se trompe », en réalité, les chrétiens sont des naïfs, ils ont commencé à adorer l'avant-dernier prophète, qui lui-même a été un peu, comme on le sait, un peu débile, puisqu'il n'a pas réussi à ne pas se faire adorer. Il était tellement beau, tellement fort, tellement puissant, et en même temps un peu bébête, puisqu'il n'a pas réussi, et ça c'est une chose qu'on entend chez les musulmans, il n'a pas réussi à empêcher que les chrétiens l'adorent. Donc du coup, Mahomet a dû revenir ensuite. Il le révère, certes, il le révère, et quand on voit un musulman, quand on entend un musulman qui honore notre Seigneur, ça nous fait toujours plus plaisir que d'entendre un juif qui blasphème. Mais en réalité, il fait pire, puisqu'il fait œuvre d'Antéchrist. Honorer notre Seigneur en tant qu'homme, et dire que c'est l'avant-dernier prophète et que Mahomet est plus grand que lui, c'est blasphémer. Tandis que haïr le Christ pour ce qu'il est, c'est être totalement dans l'erreur, c'est être totalement dans les ténèbres, Et leur aveuglement a été notre salut. Donc vous voyez, faisons très attention, reconnaître la divinité du Christ, confesser la divinité du Christ, doit être conforme, doit se faire conformément à la foi de l'Église, sinon, eh bien, d'une certaine manière, il vaudrait mieux haïr notre Seigneur que de l'honorer pour ce qu'il n'est pas. Adorer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est, pour celui qui a la foi, et la foi est un don de Dieu, c'est se soumettre à sa loi, donc déjà renoncer à sa concupiscence, à la loi de sa concupiscence. Lorsque le lépreux arrive, il est donc venant, il l'adorait. Avant même d'avoir demandé quoi que ce soit au Christ, avant même d'avoir obtenu quoi que ce soit, il l'adorait. La vraie foi, qui est un don de Dieu, nous fait nous approcher de Dieu en nous soumettant d'avance à tout ce que le Christ nous dira. S'il veut me guérir, Dieu soit loué. S'il ne veut pas me guérir, Dieu soit loué. Ce sont des dispositions qui doivent être présentes de telle sorte que, comme le saint homme Job, nous puissions dire « Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni ». C'est adorer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est se soumettre à sa loi, c'est donc déjà renoncer à sa propre concupiscence. Vous voyez l'œuvre précise de la grâce préparatrice. Ce n'est pas encore la grande grâce qui terrasse et qui guérit. Mais c'est la même, si l'on peut dire, mais c'est sous la forme de la grâce préparatrice, la grâce de la préparation. Donc, vous voyez, mes très chers frères, nous parlions tout à l'heure des amorces. Méfions-nous des amorces de conversion, ces fameuses amorces, qui, finalement, annihilent cette grâce préparatrice. Bien souvent, il y a des amorces, et malheureusement, ce ne sont pas simplement des amorces sauvages, comme ça, qui font que, en s'y intéressant, la grâce peut nous faire venir, en tirant sur la ligne, à la religion. En réalité, bien souvent, ce n'est plus que ces amorces-là que l'on donne pour provoquer des conversions, comme nous le disons. Vous voyez, la fierté d'être ceci ou cela, la fierté d'être européen, le nationalisme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la prise de conscience, je ne sais pas moi, des chemtrails, des choses. Toutes ces choses-là, qui n'ont qu'un rapport vraiment extrêmement ténu, voire nul, avec la religion stricto sensu, peuvent être des amorces. Je ne dis pas le contraire. Deo gratia, si c'est le cas, peuvent être des amorces, mais si elles sont présentées comme l'amorce sine qua non, si j'ose dire, de la conversion, alors on s'aperçoit que ce sont des amorces qui, bien souvent, eh bien, annihilent l'œuvre de la grâce. Parce que quand on prend conscience que la France a été une grande nation et que depuis que la Révolution l'a ruinée, c'est-à-dire depuis qu'elle a quitté la foi de l'Église, le service de l'Église, elle est devenue n'importe quoi. Et puis donc du coup, ça signifie que je me convertis parce que je comprends que pour que la France redevienne grande, il faut que tout le monde redevienne catholique. Comment voulez-vous vous prosterner en tant que lépreux devant le Christ, l'adorant et l'adorer, c'est-à-dire non seulement reconnaître sa divinité, mais se soumettre a priori à sa loi et renoncer à sa concupiscence. Vous vous êtes converti à cause d'une concupiscence au deuxième degré, c'est-à-dire que vous avez la concupiscence pour votre nation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse constituer une amorce, ce n'est pas du tout ça que je dis, ce n'est pas du tout ça. Je dis simplement que si c'est ça l'amorce par excellence de la religion, et si l'on est univoquement chrétien pour cela, mais ça annihile la grâce. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Ça n'a rien à voir avec l'objet de la religion. Défions-nous des amorces, mes très chers frères, qui annihilent cette grâce. Ou si nous avons été amorcés par cela, empressons-nous d'adorer le Fils pour les bonnes raisons. Et pas seulement pour ce que nous pouvons en tirer pour la gloire de notre nation, et puis de nous aussi, tant qu'à faire, puisque nous sommes membres de cette nation. Vous voyez, bien sûr que nous voulons le bien de notre nation, de notre famille, bien entendu, c'est évident. Mais d'une façon plus modeste, commençons déjà par vouloir ce que Dieu veut que nous voulions. C'est-à-dire, commençons par avoir la foi, si tant est que nous sommes capables de l'obtenir de la part de Dieu. Bien souvent, l'amorce stérilise la grâce. Et tout ce qui sera fait par la suite sera fait dans le but d'instrumentaliser la grâce Ce qui fait que cette grâce qui est normalement si généreuse de telle sorte que celui qui recherche le royaume de Dieu et sa justice se verra donner tout le reste par surcroît, et tout le reste, c'est tout le reste dont nous avons besoin, eh bien, cette personne ne se convertit que pour tout le reste et néglige la recherche du royaume de Dieu et de sa justice, de telle sorte qu'elle n'a rien. D'où la stérilité terrible de toutes ces officines qui convertissent à tour de bras, enfin, façon de parler, dans un but horizontal. Et ça recommence à chaque génération, et lorsqu'une génération convertie de cette sorte-là finit par tomber dans l'apostasie, le découragement, le dégoût et la haine de Dieu, eh bien une autre génération revient qui fait exactement la même chose, mais comme elle n'a aucun lien organique, parce que ce n'est pas de la tradition, c'est de la génération spontanée, eh bien elle ne se rend pas compte et on perd un temps infini. Cela fait 50 ans, cela fait peut-être 100 ans que l'on perd un temps infini en utilisant comme amorce des choses qui, au mieux, appartiennent à tout le reste que Dieu veut nous donner dans la mesure où nous avons l'essentiel, et qui nous rendent totalement stériles et la proie de nos ennemis. Et c'est un châtiment. Méfions-nous des amorces qui stérilisent la grâce. Et il l'adorait. Revenons à notre lépreux si béni. L'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ requiert la soumission. Et il l'adorait et il lui dit, il faut se soumettre à Dieu. On ne peut pas adorer Dieu si on ne se soumet pas à lui. Quel roi accepterait qu'un de ses sujets dise, j'ai le plus grand roi du monde, c'est le plus grand souverain, maintenant les lois qu'il a édictées, je m'en moque. C'est une louange qui n'est même pas paradoxale, c'est une louange qui est hypocrite en réalité. Et c'est une personne qui tire de la louange qu'elle adresse à son roi une fierté qui n'a rien à voir avec la soumission due au roi. Donc faisons très attention à ces gens qui, sous prétexte que l'islam signifie soumission à Dieu, eh bien vous disent que le christianisme est tout sauf la soumission à Dieu. Comment ? Où croyez-vous que l'islam a pris cette bonne idée de se soumettre à Dieu ? Il l'a pris dans l'épître de Saint Jacques, lorsque Saint Jacques dit « soumettez-vous à Dieu ». Est-ce que Saint Jacques dit « soyez musulmans » ? Non, ce sont les musulmans qui sont chrétiens, si j'ose dire. En tout cas, qui utilisent une formule chrétienne. « Soumettez-vous à Dieu ». On dit « l'islam, c'est une doctrine de bédouins orientaux qui ne pensent qu'à se soumettre à un Dieu tout-puissant ». Mais excusez-moi, mais c'est exactement notre doctrine. Vous tapez sur le christianisme en tapant sur l'islam. Alors je ne dis pas que l'islam est une vraie religion. Je dis que, en voulant dénoncer une fausse religion, on sape le fondement de la vraie. L'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ requiert la soumission à sa loi, le fait d'embrasser ses maximes et l'abdication de ce qu'on appelle notre petite idée que nous avons des choses. Il l'adorait. Vous voyez, c'est l'action la plus longue qu'il fait. Il était venant, il était disant et il l'adorait. C'est comme si venir et dire étaient des choses qui procédaient de cette adoration. Et cette adoration, comment pouvait-il s'y livrer si Dieu n'était pas à l'œuvre d'une façon efficace dans sa vie ? Quoique lépreux, il l'adorait. Vous voyez, il était déjà, si l'on peut dire, il n'était déjà plus lépreux puisqu'il était déjà un adorateur en esprit, en vérité, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'adorait 10 ans, dit Chance, 10 ans. Vous voyez, ces paroles sont celles de l'Église, elles sont celles de la vérité. Les actes doivent précéder la profession de foi. Ça peut paraître curieux, on peut dire non, d'abord il faut professer la foi et ensuite en avoir les actes. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui se voit aussi, mais d'une certaine manière, l'exemple de ce lépreux nous montre qu'il était venant, il adorait, et ensuite il était disant. Il ne parle qu'en troisième lieu. D'abord, il venait, deuxièmement, il adorait, troisièmement, il demandait quelque chose. Ayez les actes du christianisme avant de vouloir claironner partout que vous êtes chrétien. Sinon, vous risquez fort bien de n'être qu'une coquille vide, d'être des gens qui claironnent partout qu'ils sont fiers d'être chrétiens alors qu'ils n'en ont pas les actes. Or, la foi sans les œuvres est morte. Et la foi proclamée fera mieux de se taire si les œuvres ne la précèdent pas. La foi est donnée, c'est un don de Dieu. Elle produit des œuvres et, si Dieu veut, nous parlons. Ces paroles sont celles de l'Église, elles sont celles de la vérité. Les actes doivent précéder la profession de foi. Et que dit-il? Parce qu'il demande quelque chose. Domine civis potes memundare. Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir, me purifier plus précisément. Ces paroles, eh bien, sont, je disais, ce sont des paroles de l'Église, les paroles de la vérité. Les ennemis de la grâce, que sont les pélagiens, les semi-pélagiens, les molinistes et tous ceux qui leur ressemblent, les ennemis de la grâce disent que font dépendre la puissance de Dieu de la volonté de l'homme. Ils disent, ils mettraient bien dans la bouche de ce lépreux, « Vous pouvez me guérir si je le veux ». C'est exactement ça, ça c'est l'évangélisation moderniste, si vous voulez, Dieu peut quelque chose pour vous, mais c'est vous qui décidez. Si vous voulez vous convertir, parce que vous trouvez que nous avons de bonnes raisons, et qu'il y a de bonnes raisons objectives de devenir chrétien, vous pouvez, parce que Dieu a tout préparé pour vous, voyez, vous pouvez, si vous le voulez, vous n'avez qu'à vouloir. Ça c'est le discours des ennemis de la grâce de notre Seigneur. Faire dépendre la puissance de Dieu de la volonté de l'homme, c'est une hérésie. C'est du pélagianisme. Écoutons bien ce que dit le lépreux, parce qu'il nous apprend non seulement la doctrine, mais aussi la subtilité de la doctrine, puisque bien entendu, la volonté de l'homme est sollicitée. Mais vous voyez, nous devons comprendre comment elle est sollicitée et comment elle répond, et comment elle embrasse le dessein salvateur de Dieu pour elle. Si vous voulez, dit le lépreux, civis, si vous voulez. Pourquoi le lépreux dit-il ces paroles sous l'influence du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la grâce prévenante qui est en même temps la face cachée de la grâce efficace? Eh bien, Dieu déteste, il le sait, Dieu déteste le péché et celui qui l'incarne. Le péché, c'est une chose, et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Mais sans pécheur, il n'y a pas de péché. Le péché est le résultat du refus par l'homme de mettre en pratique la loi de Dieu. Donc Dieu déteste le pécheur, et le pécheur doit le savoir. Dieu réconcilie l'enfant de colère, c'est-à-dire l'enfant de sa propre colère, c'est-à-dire celui qui est promis à sa colère, parce qu'il le veut bien, et non parce qu'il le lui doit bien. Si l'homme veut, c'est parce que Dieu veut que l'homme veuille. Voilà la maxime de notre Père Saint-Augustin. Si l'homme veut, c'est parce que Dieu veut que l'homme veuille. C'est pour cela que cette volonté salvifique de Dieu sur le lépreux se manifeste dans la bouche du lépreux par cette prière, ou plutôt cette affirmation, « Si vous voulez, vous pouvez ». Il ne dit pas « Seigneur, guérissez-moi ». Il ne dit pas « Seigneur, vous qui pouvez tout, guérissez-moi donc pour voir ». Il ne dit pas « Seigneur, je voudrais bien que vous me purifiez ». Non, il dit « Seigneur, je laisse entièrement à vous le choix de me purifier ou de ne pas me purifier. Pour moi, je suis venant et j'adore. Domine si vis, Seigneur, si vous voulez ». En même temps, vous allez dire, donc ça veut dire que n'importe qui pourrait se présenter devant Dieu en disant « Seigneur, si vous voulez me sauver, sauvez-moi, maintenant si vous ne voulez pas me sauver, je m'en remets à vous ». C'est pas ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ça? Parce qu'il est quand même venant et il est quand même adorant. Donc, s'il dit « si vous voulez me purifier, si vous voulez, vous pouvez me purifier », c'est bien qu'en réalité, il exprime sa très grande confiance que Dieu veut son salut, mais il l'exprime de façon à laisser intacte la doctrine de la grâce, qui en aucun cas ne tolérerait que l'homme puisse donner l'impression qu'il force la main à Dieu dans son salut. L'homme dit « Je suis un pécheur, je suis un lépreux. Maintenant, j'ai confiance en votre volonté, il vous suffirait de vouloir pour que je sois pur. Si vous voulez, si vous voulez. Il n'y a rien en moi qui peut vous motiver votre désir de me rendre pur. Ce désir, vous ne le trouverez, mon Dieu, qu'en vous-même. Et ce n'est qu'au sein même de la Très Sainte Trinité que vous trouverez le motif qui vous fera vouloir me purifier. Si vous voulez ainsi me purifier, si vous voulez, vous pouvez me purifier. Voilà une prière qui est, c'est la prière parfaite. C'est-à-dire, c'est une prière qui est dans, qui procède d'une très grande espérance. Et c'est presque la prière de quelqu'un qui se sait infailliblement exaucé. Et en même temps, c'est la prière de quelqu'un qui est extrêmement humble, puisqu'il se présente à Dieu en n'ayant qu'une seule chose à l'esprit, c'est qu'il est un pécheur et que c'est sa faute, sa très grande faute. La volonté salvifique de Dieu sur chaque homme ne se présume pas, voyez mes très chers frères, elle ne se présume pas, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est vrai, mais elle ne se présume pas, elle s'éprouve par l'approche convenable. Seigneur, s'il est vrai que vous voulez me sauver, vous pouvez me sauver. Voilà l'approche convenable. Elle s'éprouve par l'approche convenable. L'humilité qui se confesse indigne d'être exaucée, voilà la clé pour pouvoir être exaucée. L'humilité est donc la clé de l'exaucement, car il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Si nous venons donc, par des amorces impures, à la foi, soi-disant, ou mettons une amorce de foi, et que nous disons à Dieu « Je veux bien entrer dans votre crèmerie parce que c'est la seule façon pour moi de rendre à mon peuple la gloire qui lui appartient », pensez-vous que cette conversion puisse aller bien loin? On est très loin du « si vous voulez, vous pouvez », de ce lépreux exemplaire auquel nous devrions ressembler. Et si j'ose dire, pour pouvoir être un vrai chrétien aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se sont convertis avec ces motifs-là, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qui apostasient, pourquoi? Parce qu'ils étaient mal convertis. Et comme une maison mal bâtie finit toujours par s'écrouler, eh bien, une conversion mal commencée finit toujours par s'évaporer. C'est terrible, hein, mais on en voit des exemples tous les jours. Hélas, hélas, trois fois hélas. Nous en arrivons à notre deuxième point. Que dit l'Évangile ? Et extendens Jesus manum tetigiteum et dicens volo mundare. Jésus, étendant la main, le toucha en disant « Je le veux, sois purifié ». Et extendens manum tetigiteum. Voyez cette précision dans la description de ce qui se fait. Et étendant la main, il le toucha, disant, je le veux, sois pur. Comme nous avons vu le lépreux adorer avant que de demander, nous voyons le Fils éternel de Dieu toucher avant que de répondre par des paroles rationnelles et audibles. L'effet, dans l'ordre de la grâce, l'effet précède la parole. Tant Dieu est bon envers ceux qu'il aime. Il suffit que Dieu veuille guérir pour que la guérison soit effective. Et c'est exactement ce que savait, par la grâce de Dieu, par l'effet du Saint-Esprit, par l'enseignement de l'Église, si j'ose dire, eh bien, si je dois dire, le lépreux. Je sais que vous pouvez tout, et que tout dépend de votre volonté. Eh bien, il suffit que Dieu veuille guérir pour que la guérison soit effective. Et cette guérison, Dieu veut tellement nous la donner, qu'il étend la main et nous touche avant même de nous dire que nous sommes guéris. Sa puissance, c'est sa volonté. Et pour bien comprendre cette grandeur de la puissance irrésistible de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de Dieu, eh bien, l'Église nous a donné une oraison aujourd'hui, une oraison collecte de ce troisième dimanche après l'Épiphanie, qui est une oraison qui est une de ces oraisons toutes petites, qui semble plus ou moins insignifiante, et pourtant qui est peut-être plus absolue qu'une grande oraison extrêmement complexe. Dieu Tout-Puissant et Éternel, jetez un regard compatissant sur notre faiblesse et étendez sur nous, pour nous protéger, le bras de votre majesté. Donc vous voyez, extendens manum, et là on parle de dexteram tuae maestatis extende. C'est pas pour rien que cette oraison arrive avec cet évangile. Dieu Tout-Puissant et Éternel, c'est le Dieu, nous l'avons dit il n'y a pas si longtemps, c'est le Dieu de la grâce efficace, auquel rien ne résiste. Lorsque Dieu veut sauver une âme, cette âme sera sauvée. Alors même que cette âme résiste, alors même que cette âme est une âme complètement noire, complètement encrassée par son hérédité, encrassée par parce qu'elle a souffert, encrassée par stérilisée, paralysée par toutes sortes de maladies morales qui se sont empilées, entassées, etc., et qui ont décuplé la puissance de la concupiscence qui est le péché originel, eh bien, mes très chers frères, si Dieu veut la sauver, elle sera sauvée. Rien ne lui résiste. Quand bien même l'enfer, le monde, Satan et ses démons ligués contre elle voudraient l'arracher à la puissance de Dieu, lorsque Dieu veut sauver une âme, cette âme sera sauvée. Nous le savons. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait absolument que des motifs de désespoir. C'est-à-dire que n'importe quoi serait plus fort que Dieu. N'importe quoi serait plus fort que Dieu. Or, nous savons que lorsque Dieu veut guérir, il guérit, et la guérison est effective. Deus, omnipotens sempiterne Deus, c'est le Dieu de la grâce efficace auquel rien ne résiste. Et à ce Dieu de la grâce efficace auquel rien ne résiste, ce Dieu tout-puissant et sempiternel et éternel, l'Église, immédiatement après cette invocation immense, l'Église nous met un mot, infirmitatem nostram. Immédiatement, juxtaposé, Dieu tout-puissant, notre faiblesse, regardez. Évoqué juste après la toute-puissance de Dieu, ce n'est pas simplement pour mieux nous faire comprendre de Dieu, bien entendu, mais c'est pour mieux nous faire comprendre à nous ce que nous demandons à Dieu, que l'Église nous fait prier en ces termes. Dieu tout-puissant, notre faiblesse, etc. Notre faiblesse, eh bien, doit nous contrister. Nous devons être dans la certitude, eh bien, qu'il ne faut pas moins que la toute-puissance divine pour vaincre la toute-impuissance humaine, la toute-faiblesse humaine. Cette faiblesse n'est pas simplement une faiblesse passive, une faiblesse qui fait que, bien entendu, la créature ne saurait pas être comparée à Dieu sous un certain rapport, alors évidemment l'homme en état d'innocence est faible par rapport à Dieu, mais ce n'est pas de cette faiblesse-là dont il est question. C'est la faiblesse du vice, c'est la faiblesse de l'amour que nous portons à notre propre blessure, c'est la faiblesse, cet amour jaloux que nous avons envers la concupiscence, à cause de la concupiscence, envers le péché originel qui nous caractérise et dont nous sommes si fiers. Voilà la faiblesse qui a besoin d'être combattue par la force toute puissante du Dieu éternel, mes très chers frères. Et c'est pour cela qu'elle est évoquée immédiatement après l'affirmation de l'omnipotence divine. Omnipotens infirmitatem nostram. Et que lui disons-nous ? Respice, regardez dans le sens de scruter. Mais c'est bien ce qu'il fait, c'est bien parce qu'il a respice, parce qu'il a regardé la faiblesse, le vice de nos premiers parents lorsqu'ils ont péché contre lui, qu'il les a bannis du péché du paradis originel. Bien sûr qu'il regarde, bien sûr qu'il respice, bien sûr qu'il regarde, et il chasse. Il a puni l'homme, il a puni la femme, il a maudit le serpent. Mais que nous fait dire l'Église ? Propitius, regardez, mais vous regardez, rien ne vous échappe. Mais regardez, scrutez avec un air propice, avec miséricorde, un regard compatissant. La compassion de Dieu, d'où vient-elle ? Du fait que, un peu comme le Dieu d'Islam, il voit le premier homme et la première femme qui font un peu n'importe quoi, il dit « Ah !» Après tout, ils sont tellement infiniment différents de moi, et tellement incapables d'association avec moi, que, pauvres bêtes, je vais leur pardonner. Bon, ça c'est gentil, c'est déjà pas mal, hein, notez bien, mais c'est pas ça la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, c'est la compassion d'un Dieu très saint, qui a fait l'homme pour que l'homme se sanctifie à sa gloire. Et l'homme a refusé de se sanctifier à la gloire de Dieu. Quel regard de compassion Dieu peut-il encore trouver pour poser sur cet homme ? Mais pourtant, nous savons qu'il a un regard de compassion, puisque nous demandons qu'il l'ait pour nous. La compassion de Dieu, mes très chers frères, vient de sa contemplation de son Fils et de nous en lui. C'est pour cela que cette expression « in Christo » revient constamment dans les épîtres de saint Paul. Nous sommes dans le Christ, in Christo. Si Dieu nous regarde avec un regard de propice, c'est parce qu'il regarde son Fils et parce qu'il nous y voit, de telle sorte que si nous sortions, que Dieu nous garde de son Fils, par la volonté propre, par l'apostasie, par le péché, eh bien, sous un certain rapport, le péché d'impénitence, eh bien, il se trouve que nous remettrions sous le regard terrible du Dieu trois fois saint, tout-puissant, qui déteste notre infirmité, parce que notre infirmité, nous l'avons acquise en mésusant des grâces dont l'homme disposait en état d'innocence. Quelle compassion voulez-vous que Dieu ait pour nous, si ce n'est dans son Fils, par son Fils? Non seulement nous lui demandons de jeter sur nous un regard de compassion, mais nous lui disons aussi, et cette fois-ci nous le disons, vous voyez, nous ne disons pas out, afin que, etc. Nous disons atque, c'est-à-dire et c'est une forme forte de dire ceci et cela. On ne dit pas et. Mais atque, c'est une nuance de du latin. Il y a plusieurs façons de dire et en latin. Eh bien, atque est une façon très, très imposante de dire ceci et aussi cela. Dieu Tout-Puissant et Éternel, jetez un regard de miséricorde sur notre faiblesse et ne vous arrêtez pas là. Et atque ad protegendum nos dexteram tuae mei satis extende. Et surtout ne vous arrêtez pas là. Et afin de nous protéger, déployez la droite de votre majesté. Nous avons besoin ensuite du regard propice, nous avons besoin d'une suite. Nous avons besoin qu'il déploie la droite de sa majesté, c'est-à-dire son bras, sa force, sa puissance, c'est-à-dire sa volonté active, sa volonté opérative, efficiente. Nous en avons besoin non seulement pour la guérison, mais encore nous avons besoin d'être protégés, c'est-à-dire fixés dans un état où dans lequel notre concupiscence ne vienne pas à prévaloir sur notre charité, la charité qui a été répandue dans nos cœurs par le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, bien souvent, la grâce d'amorce nous est donnée, elle est donnée à beaucoup de gens, il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus, c'est-à-dire peu sont protégés. L'eau tombe sur la terre, mais elle s'évapore. Le grain tombe sur la terre, mais il est mangé par les oiseaux, il est dévoré par les épines, il est grillé par le soleil. Il nous faut non seulement que Dieu être regardé avec miséricorde par Dieu dans son Fils unique, en qui il a mis toutes ses complaisances, mais il faut encore qu'il étende son bras, c'est-à-dire qu'il se révèle pour nous, Dieu Tout-Puissant, afin que nous soyons protégés contre notre pire ennemi, qui n'est pas le monde, qui n'est pas le diable, mais qui est nous-mêmes, qui est la chair. Évidemment, le diable et le monde sont aussi nos ennemis, mais c'est la chair, le monde et le diable. Le diable est le plus éloigné, parce que c'est un ange déchu, le monde est relativement proche parce que nous sommes dedans, et la chair, le vieil homme, malheureusement, c'est en quelque sorte notre double, si l'on peut dire, un double maléfique, si l'expression n'est pas canonique, mais enfin, disons, c'est pour faire comprendre l'horreur de la chair du vieil homme. Nous avons besoin de ce regard convertissant dont Saint-Pierre a bénéficié, afin d'être non seulement guéri, mais encore protégé, c'est-à-dire fixé dans un état où la concupiscence ne prévale pas sur notre charité, et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'état de justice. La cause de cette protection, eh bien, c'est l'extension du bras de la majesté divine, le déploiement de la volonté invincible de Dieu. Vous voyez combien nous sommes mauvais, mes très chers frères, combien nous sommes lépreux, combien nous sommes faibles, infirmes, parce qu'il faut, pour vaincre cette infirmité positive, il faut rien moins que le déploiement de la majesté, de la droite de la majesté divine. Combien nous sommes mauvais, combien nous sommes viciés, combien nous sommes corrompus, mes très chers frères, l'abîme de corruption de l'homme, et je parle de l'homme régénéré, est insondable. Il ne faut pas moins que l'extension, le déploiement de la droite de la majesté divine pour triompher invinciblement de ce qui serait autrement la cause de notre damnation éternelle. Si vous voulez, vous pouvez, disait notre lépreux, « Veuillez vouloir me sauver, devons-nous dire à Dieu. Seigneur, ne vous lassez pas de moi, Veuillez vouloir me sauver. Donnez-moi la volonté d'être sauvé. Sans la bienveillance antécédente de Dieu, nous ne saurions vouloir notre propre bien, aveuglés que nous sommes par la poursuite de notre volonté propre. Si Dieu ne faisait pas tout en nous et par nous, afin que nous puissions vouloir, nous ne voudrions pas vouloir. Malheur à ceux qui excitent une petite volonté dans leur prochain en leur faisant vouloir Dieu, mais pour une fin temporelle, pour une fin, si tant est que cette fin soit vraiment accessible d'ailleurs. Ça, c'est encore autre chose. Malheur, mes très chers frères, malheur aux mauvaises amorces. Et si par la grâce de Dieu, si la grâce de Dieu nous a permis que la mauvaise amorce soit utilisée, passons vite à la bonne, passons vite à l'adoration, passons vite à la reconnaissance que sans celui qui nous fait vouloir, nous ne pourrions pas vouloir, sans celui qui nous fait nous mouvoir vers lui, nous ne pourrions pas venir vers lui. Passons vite à l'adoration, mes très chers frères, passons vite à l'adoration. Cette droite, l'adoration de cette droite toute puissante de Dieu, eh bien cette droite, on en parle dans l'offertoire. La droite du Seigneur a fait éclater sa puissance, la droite du Seigneur m'a exalté, je ne mourrai point, au contraire, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. C'est notre troisième point. C'est un chant, le chant de gratitude, d'Extera Domini Fecit Virtutem. C'est un offertoire qui est très connu, il n'est pas très difficile à chanter. Malheureusement, bien souvent, dans les milieux autorisés, c'est plus un tube de, si j'ose dire, de l'arrogance la plus ridicule que le chant de, un chant de gratitude. Oui, on chante d'extera, domini, etc., d'extera, comme si c'était notre droite à nous, et comme si Dieu nous avait réellement exalté au-dessus de nos ennemis. Mais enfin, regardons-nous, mes très chers frères, nous sommes les paillassons, le tapis de sol de l'humanité entière en tant que catholique, et nous trouvons encore le moyen de nous glorifier, et nous le sommes devenus non pas parce que ceci et cela nous ont corrompus, infiltrés, c'est parce que nous avons apostasié, parce que nous avons volontairement réduit la puissance de Dieu à n'être qu'une puissance de disponibilité, et que nous avons fait de la volonté de l'homme la clé de la réalisation de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes si bas. Au lieu d'être un chant de gratitude, c'est un chant du triomphe le plus niais de ceux qui ne se rendent même pas compte que non seulement ils sont impuissants, mais ils sont ridicules. Dextera Domini. Tremblons à ces mots qui sont mis à notre profit, mes très chers frères. Dextera Domini. C'est la volonté invincible de Dieu qui s'appelle la droite, qu'on décrit dans l'Écriture par la droite du Seigneur, la main droite du Seigneur. C'est la volonté invincible de Dieu. Exalta vit. Exalta vit me. La droite du Seigneur m'a exalté. Mais dans le Magnificat, elle dit exalta vit humilem, humiles. Exalta vit humilitatem ancile sue. On ne peut être exalté que dans la mesure, par Dieu, que dans la mesure où l'on est humble, où l'on s'humilie volontairement sous la main puissante de Dieu, de ce Dieu qui résiste aux orgueilleux. La droite du Seigneur m'a exalté, mais est-ce que je me suis abaissé? Abaissons-nous sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable, dit l'apôtre. Non moriar, je ne mourrai pas. Qu'est-ce que ça signifie, je ne mourrai pas? C'est-à-dire que je ne suivrai plus les désirs de la chair, du vieil homme. Alors, selon ce que dit saint Paul, si vous suivez les désirs de la chair, vous mourrez. Je ne mourrai pas, c'est-à-dire je triomphe de moi. La droite du Seigneur m'a fait triompher de ma concupiscence par une charité plus grande, plus forte. Voilà ce que ça signifie. On n'est pas là en train de se pavaner avec des drapeaux dans la rue comme n'importe quel manifestant. Nous sommes en train de décrire le triomphe de la droite invincible de Dieu sur notre propre concupiscence qui nous mérite la damnation. Et que nous aimons tant, nonobstant cela, c'est extraordinaire. La corruption et la méchanceté de l'homme sont sans limite. Il faut rien moins que le déploiement de la droite de Dieu pour triompher de cette horreur. Je ne mourrai pas, je ne suivrai plus les désirs de la chair du vieil homme. Cette vivam, non seulement je ne mourrai pas, mais encore je vivrai. Je vivrai. Qu'est-ce que ça veut dire, je vivrai? Je vivrai protégé par Dieu. Je vivrai purifié, c'est-à-dire je vivrai dans la justice. La justice n'est pas un état qui dure quelques microsecondes juste après le baptême. La justice est un état stable, un état ferme dans lequel l'âme qui aime Dieu croit de grâce en grâce et pratique de plus en plus les œuvres bonnes à l'exclusion des œuvres mauvaises. La justice, ce n'est pas un état plus ou moins imaginaire ou idéal d'où on est tout le temps en train de sortir pour asservir le diable. Cette vive âme, je ne mourrai pas, je ne suivrai plus les désirs de la chair, mais je suivrai les désirs de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que j'obéirai aux maximes de l'Évangile, j'obéirai à la loi de Dieu, et j'y persévérerai avec l'aide de cette droite toute-puissante de Dieu qui a déjà tant fait pour moi et qui continuera à me soutenir, car sans elle, bien, je ne suis que faiblesse. Et quoi donc ? Et narrabo opera domini, et je raconterai les œuvres du Seigneur. Je serai dans la gratitude effective. À ce propos, justement, notre Seigneur, parce que un chrétien pourrait penser, ah, je raconterai les œuvres du Seigneur, c'est merveilleux, je vais faire un blog. Attendez, 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 attendez. Que nous dit notre Seigneur ? Garde-toi d'en parler à personne. Vous voyez, tout se tient dans la messe. Garde-toi d'en parler à personne. Et aussitôt, sa lèpre fut guérie. Et Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Garde-toi de te laisser aller à faire des interviews alors que l'eau du baptême n'est pas encore sèche sur ta petite tête. Attends, garde-toi, gare à l'orgueil, gare à la chute, à la rechute, à l'apostasie. Garde-toi d'en parler à personne. Un directeur sage nous dise l'essentiel de tout ce qu'il y a de bons directeurs et de bons maîtres spirituels dans l'Église. Un directeur sage n'encourage pas la divulgation charnelle des opérations de la grâce. Garde-toi d'en parler. Alors vous allez dire, mais sinon personne ne le saura, et pourtant il faut en parler. Oui, mais laissez venir le moment d'en parler. Parlez-en par vos œuvres. Lorsque nous en parlions il n'y a pas si longtemps, dans un sermon, vous vous souvenez, lorsque vous venez de vous convertir, ne sautez pas à la gorge de vos proches pour leur dire que ce sont de sales pécheurs mécréants et remplis de produits chimiques et de médicaments. Commencez par vous taire et être des chrétiens. Que les paroles de la foi, qui s'évaporent si vite, soient précédées par les œuvres de la foi. Garde-toi d'en parler à personne, mais va, montre-toi au prêtre et offre le don que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Va te montrer au prêtre. Seul le prêtre, c'est-à-dire le confesseur, encore faut-il qu'il ait vraiment le pouvoir de confesser et d'absoudre, ça c'est encore autre chose, il y a bien des confessions qui sont invalides parce que le prêtre n'a pas les pouvoirs. Va te montrer au prêtre. Seul le prêtre est à même d'évaluer la solidité de la conversion. Ce n'est pas parce qu'on fait une belle interview que la conversion est bien solide. Ce n'est que au tribunal de la pénitence, là où on est honnête, là où on ne roule pas des mécaniques, que le prêtre peut évaluer la solidité de la conversion par l'épreuve des œuvres sur la durée. Vous êtes converti, c'est très bien. Vous avez dit au Seigneur « Domine civis potest me mundare », c'est très bien, c'est très très bien, c'est très rare. Maintenant, on va voir un petit peu, venez, on va voir selon le rituel de l'Église, on va voir si les taches ont disparu, si la nécrose s'est arrêtée. Ah oui, mais là, il y a encore plein de taches de lèpre, ma chair s'en va en morceaux, mais j'ai la bonne doctrine, j'ai bien compris. Ah non, voilà, vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas guéri, vous ne pouvez pas offrir le sacrifice, et vous ne pouvez pas communier au sacrifice. Mais comment alors ça va durer toute ma vie? Non. Il faut juste que vous laissiez Dieu vous donner un tel vouloir, et bien que la concupiscence soit surmontée par la charité. Et c'est ainsi que vous pourrez véritablement rentrer dans la catégorie de ceux qui sont guéris de leur lèpre. Si les lépreux, si Moïse avait donné de la part de Dieu cette loi sur la vérification de la guérison des lépreux, c'était aussi pour voir si les lépreux n'étaient pas des guéris imaginaires. J'ai l'impression que je ne vois plus ma lèpre, donc je suis guéri. Ah, attendez, on va vous examiner. Et si effectivement la lèpre a de toute évidence disparu, alors vous offrirez à Dieu un sacrifice, vous communierez à ce sacrifice, et vous pourrez vivre comme un homme normal. Le sage confesseur, le sage directeur ne lui donnera part au sacrifice qu'après preuve tangible de sa guérison. Sinon, il est encore malade. Alors, mes très chers frères, disons à genoux devant Dieu, conscient de notre lèpre, « Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me purifier. » Et attendons-nous à ce qu'il nous donne de vouloir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.